Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 131 de la sainte sourate Al-Nisa. Notre frère Rahnama vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle à l'homme la puissance de Dieu et le met en garde contre la mécréance.
بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي.
À Dieu, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Craignez Dieu. Voilà ce que, très certainement, nous avons enjoint à ceux à qui, avant vous, le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et si vous m'écroyez, eh bien, à Dieu tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et Dieu demeure au large, digne de louange.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le mardi 15 Azar 1401 du calendrier iranien, 6 décembre 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite notre commentaire politique, consacré aux déclarations du ministre iranien des Affaires étrangères. Développement des relations entre l'Iran et la Serbie. Au moins 7 morts dans l'explosion d'une bombe au nord de l'Afghanistan. L'Ukraine a bien utilisé des drones pour frapper un aérodrome russe, a annoncé Moscou. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné le soutien de la République islamique d'Iran à l'intégrité territoriale de la Serbie lors d'une rencontre avec le président serbe. Au cours de la réunion de lundi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a réitéré l'invitation du président iranien Ebrahim Raisi au président serbe Aleksandar Vučić de se rendre à Téhéran et a souligné le soutien de Téhéran à l'intégrité territoriale de la Serbie. Hossein Amir Abdollahian a également présenté un rapport sur les entretiens tenus avec le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères de la Serbie et a souligné la nécessité de promouvoir la coopération dans divers domaines. Le ministre iranien des Affaires étrangères a jugé nécessaire d'utiliser des mécanismes innovants pour promouvoir la coopération économique et augmenter le volume des échanges. Le président serbe a, pour sa part, déclaré que l'Iran est un pays essentiel dans la région et que la Serbie attachait de l'importance au développement des relations avec la République islamique d'Iran. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, réagissant aux allégations anti-iraniennes de la 5e flotte de la marine américaine concernant la saisie d'un navire de pêche transportant des munitions dans le golfe d'Oman, a déclaré que les accusations contre l'Iran s'inscrivaient dans le cadre de la politique américaine contre le Yémen. Nasser Kanani, s'exprimant à l'occasion d'une conférence de presse lundi, a évoqué les allégations avancées par la 5e flotte de la marine américaine contre l'Iran selon lesquelles un navire de pêche avec plus de 50 tonnes de munitions, de fusibles électriques et du carburant de missiles a été saisi dans le golfe d'Oman. Il a déclaré « La répétition d'allégations sans fondement est uniquement à des fins d'exploitation politique et ce comportement américain vise à dévier l'attention publique de l'agression contre le Yémen. En Afghanistan, une explosion secoue la capitale de la province septentrionale de Balkh, tuant 7 personnes. Selon la police de Mazar-e-Sharif, la bombe a été placée dans un chariot près d'une route locale. Il s'est déclenché au passage d'un bus transportant des employés d'une compagnie pétrolière. L'explosion s'est produite à 7 heures sur une place visant un bus d'employés qui se rendait à leur bureau, a précisé le porte-parole de la police locale. La bombe a été placée dans un chariot sur le bord de la route. Elle a explosé à l'arrivée du bus. 7 personnes ont été tuées, a poursuivi le porte-parole. L'explosion a également blessé 6 personnes. Aucun groupe n'a revendiqué dans l'immédiat cet attentat. L'Afghanistan a été secoué par un certain nombre d'incidents similaires au cours des derniers mois, dont certains ont été revendiqués par les terroristes de Daesh. La Russie affirme qu'une nouvelle attaque de drones a frappé un aéroport dans une région frontalière de l'Ukraine. Selon des autorités locales, un réservoir de stockage de pétrole a été incendié en raison de l'attaque dans la région de Koursk, mais aucune victime n'a été déclarée. L'incident a eu lieu un jour après que la Russie a déclaré que l'Ukraine avait mené des attaques de drones sur 2 aéroports militaires à l'intérieur de son sol. Selon l'armée russe, les forces ukrainiennes cherchaient à mettre hors service les avions russes de longue portée utilisés pour attaquer les infrastructures énergétiques en Ukraine. Le ministère russe de la Défense a qualifié les frappes de lundi d'actes terroristes visant à désactiver l'aviation à longue portée du pays. Selon le ministère, les attaques ont tué 3 militaires. Moscou dit avoir répondu en lançant une frappe massive contre le système de contrôle militaire de l'Ukraine et d'autres cibles. Le bilan d'une attaque contre un village dans l'est de la République démocratique du Congo est passé à environ 300. Le nouveau chiffre a été annoncé par le ministère de l'Industrie. L'armée avait initialement déclaré qu'au moins 50 civils avaient été tués dans le village de Kishishe la semaine dernière, avant que le gouvernement n'élève le chiffre à plus de 100. Le gouvernement de la République démocratique du Congo affirme qu'il est difficile de confirmer les données car la zone est toujours sous contrôle rebelle. Le gouvernement impute le massacre aux insurgés du M23. Cependant, le groupe rebelle a nié toute responsabilité et a qualifié les allégations de sans fondement. Après 5 jours de trêve, des combats à l'arme lourde ont repris la semaine dernière dans l'est de la République démocratique du Congo entre le M23 et l'armée congolaise qui a accusé ces rebelles d'avoir massacré des dizaines de civils. Et enfin, des dizaines de milliers de personnes sont sans électricité depuis le week-end dans l'État américain de Caroline du Nord après que 2 sous-stations électriques ont été la cible de tirs. L'état d'urgence a été annoncé dans le comté de Moore. Les écoles sont fermées et des couvre-feux ont été imposés jusqu'à ce que les autorités résolvent les problèmes causés par ce qu'elles appellent un crime intentionnel et ciblé. Le gouverneur de l'État a tweeté dimanche avoir parlé avec les responsables de l'application de la loi de l'État en ce qui concerne les pannes d'électricité dans le comté de Moore. Le FBI mène une enquête et travaille pour rétablir le courant chez les personnes affectées, a-t-il indiqué, en ajoutant que l'État fournirait le soutien nécessaire. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Dans quelques instants, nous vous présenterons notre commentaire politique. Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que Téhéran rejetait tout accord qui ne servirait pas les intérêts nationaux de la République islamique d'Iran. Nous ne recherchons pas un accord qui n'est pas durable et qui ne profite pas aux Iraniens. Nos lignes rouges ne sont définitivement que la garantie des intérêts de la nation iranienne, a déclaré Hossein Amir Abdollahian lors d'une réunion lundi 5 décembre à Belgrade avec des ressortissants iraniens résidant en Serbie. Il a également déclaré qu'en dépit des sanctions injustes de l'Occident, la République islamique d'Iran est dans de bonnes conditions en ce qui concerne ses exportations pétrolières et non pétrolières. Les pourparlers pour sauver le plan global d'action conjoint ont débuté dans la capitale autrichienne Vienne en avril de l'année dernière, avec l'intention d'examiner le sérieux de Washington à rejoindre l'accord et à lever les sanctions anti-iraniennes. Les pourparlers sont au point mort depuis le mois d'août, étant donné que Washington a continué d'insister sur sa position impitoyable de ne pas lever toutes les sanctions imposées à la République islamique d'Iran par la précédente administration américaine du président Donald Trump. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a réitéré lundi l'engagement de la République islamique d'Iran envers les pourparlers sur la relance du plan global d'action conjoint, rappelant que Téhéran n'était pourtant pas disposé à négocier sous la pression et sous les menaces. Ailleurs dans ses remarques, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que sa visite de 2 jours en Serbie visait à accélérer le renforcement des relations bilatérales entre la Serbie et la République islamique d'Iran. Il a exprimé l'espoir qu'un nouveau chapitre s'ouvrirait dans les relations des deux pays après une visite prévue du président serbe à Téhéran. La politique étrangère équilibrée de la République islamique d'Iran est basée sur un déplacement vers les pays voisins et asiatiques, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, soulignant que Téhéran est présent partout où ses intérêts nationaux l'exigent. Nous sommes présents à l'ouest et à l'est, en fonction de nos intérêts, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne. Évoquant les troubles en Iran qui ont été déclenchés suite à la mort de la jeune femme iranienne Mahsa Amini il y a plus de 2 mois, Hossein Amir Abdollahian a émis de sérieux doutes quant aux compassions manifestées par des responsables occidentaux. Il a fait savoir qu'un ressortissant occidental avait été arrêté en Iran, affirmant qu'il avait été chargé par les services de renseignement de son pays de semer le chaos dans tout l'Iran pour Pour ainsi contraindre, la République islamique d'Iran a accepté les conditions de l'Occident, une fois mise à la table des négociations sur la relance du plan global d'action conjoint. Les revendications pacifiques doivent être satisfaites dans le cadre des devoirs de la République islamique d'Iran et de la Constitution, a souligné Hossein Amir Abdollahian. Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a vivement déploré la mort de 67 membres des forces de la police iranienne, celles qui n'étaient pas autorisées à utiliser des armes létales, tout en évoquant des milliers d'autres victimes qui ont trouvé la mort ou ont été blessées par des armes américaines et israéliennes lors des émeutes. Selon Hossein Amir Abdollahian, les États-Unis et certains de leurs alliés occidentaux ont divisé le terrorisme et les émeutes en bien et mal. Si des émeutes se produisent avec des armes à feu en Iran, elles sont bonnes, a-t-il déclaré, sur le ton ironique par rapport à la position des gouvernements occidentaux. Dimanche 4 décembre, dans des commentaires similaires, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Nasser Kanani, s'en est pris aux responsables occidentaux pour avoir encouragé les émeutiers dans des États indépendants, tout en réprimant les manifestants pacifiques dans leur propre pays.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors après le Mali, c'est le tour de Burkina Faso de se lever contre la présence étrangère sur son sol. Et bien sûr le Mali qui pendant 8 ans a été affaibli militairement et économiquement par la présence étrangère, celle de la France bien sûr. Le Burkina Faso ne veut pas connaître le même sort. Alors justement le gouvernement burkinabé a décidé de suspendre immédiatement le RFI, Radio France Internationale, pour avoir relayé des mensonges d'intimidation. Et bien sûr, a décidé de recruter donc des forces spéciales parmi la population, ceux qui ont été accueillis très favorablement par le peuple. Et bien sûr, a conduit aux paniques de l'axe US-OTAN, qui donc voit sa présence menacée dans la région. Une présence donc sous prétexte de lutter contre le terrorisme. À présent, je vous invite de regarder un reportage préparé par mes collègues. On sera avec vous juste après. Restez avec nous, je vous prie.
C'est fou la rapidité avec laquelle le très habile président togolais Faure Gnassingbé devrait s'aligner sur le président capitaine Traoré, lui donner entièrement raison pour ce que ce dernier a fait de son premier ministre, Apollinaire Kyelem, dès son retour du sommet sécuritaire d'Accra, à savoir son recadrage, ce qui l'a poussé à effacer aussitôt son tweet où il avait annoncé l'arrivée de 2000 soldats africains au Faso pour appuyer le pays dans la lutte contre le terrorisme. En effet, 72 heures après que les trois États côtiers, à savoir le Ghana, le Togo et le Bénin, dirigés par trois présidents qui croient encore au mythe d'un Occident puissant, eurent pris part à cette manifestation où il était surtout question de refaire sur le dos du contribuable africain un avatar du G5 Sahel et de reprendre très exactement sur la côte les mêmes démarches qui ont fait que le terrorisme made in Occident puisse s'étendre en 8 ans à tous les pays sahéliens. Le Togo a été attaqué à Tivoli, cette localité située sur la frontière sud du Burkina, et il y aurait, selon RFI, qui s'en frotte déjà les mains, des soldats et des civils morts. Et en voici la preuve. Au Burkina Faso, les autorités ont annoncé jeudi 24 novembre avoir recruté 90 000 volontaires pour la défense de la patrie, VDP, des supplétifs civils destinés à seconder l'armée dans la lutte antiterroriste. Une campagne de recrutement avait été lancée le 24 octobre avec l'objectif de recruter 50 000 volontaires. L'objectif initial de l'enrôlement est largement dépassé. Dans son communiqué, le lieutenant-colonel Thomas Savadogo, commandant de la brigade d'Oveil et de défense patriotique, explique que tous les inscrits ne sont pas encore retenus pour le moment. Ceux qui le seront bénéficieront ensuite d'une formation initiale, selon le communiqué, qui ne donne pas plus de détails. Mais en Afrique, y a-t-il réellement quelqu'un qui croirait encore aux sornettes de RFI, ceux qu'à Traoré et la création d'une armée qui est même capable de donner un coup de main aux frères maliens quitte à mettre à la porte l'armée française? Lui qui, il y a quelques jours, parlait d'une armée infiltrée où des généraux de la ville ignoreraient les soldats de la campagne et ce, pour des intérêts personnels, soit une allusion à peine voilée aux accointances françaises au sein de l'armée burkinabé qui ont fait qu'à l'époque de Damiba, la force populaire a été dissoute et que la France a réussi dans la foulée à faire sauter les verrous du nord burkinabé.
Eh bien voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour, bonjour à toute l'équipe et bonjour à mon collègue. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, en particulier pour parler de l'Afrique.
Oui, bien sûr. Merci à vous. Et un grand bonjour à M. Bernard Cornu, expert des questions internationales depuis Vaucluse. M. Cornu, bonjour.
Bonjour. Et c'est de Paris aujourd'hui.
Donc de Paris, tant mieux. Donc nous démarrons donc le débat d'aujourd'hui avec vous, M. Bernard Cornu. Nous parlons bien sûr de l'Afrique et particulièrement donc de Burkina Faso qui ne veut pas se laisser faire, comme a été le cas pendant 8 ans le Mali. Et que pensez-vous que le gouvernement a décidé d'être courageux et de suspendre la radio RFI qui avait relayé des mensonges d'intimidation?
Alors effectivement, dans l'ambiance très tendue au niveau international, où beaucoup de télévisions publiques ou privées relayent des faits déformés, des fake news souvent, une certaine diffamation, une certaine exagération. Moi-même, j'en ai été témoin hier soir sur la télévision publique française ou aussi sur la radio publique France Culture, où les faits concernant l'Iran ont été déformés. Je viens de l'écrire d'ailleurs sur votre pour Skype pour préciser les éléments. Donc en fait, dans ce climat où il y a beaucoup de choses qui sont déformées, les journalistes, les rédacteurs ne font pas toujours attention et il arrive effectivement que RFI, qui est une radio assez sérieuse, des journalistes professionnels, puissent relayer des informations fausses. Donc je comprends que les gouvernements ainsi accusés, à tort, pour certaines choses, soit en colère et prennent des mesures comme l'Occident le prend envers des radios ou des télévisions, que ce soit la télévision palestinienne ou des organes russes qui empêchent de diffuser leur communication qui, s'il y a comme partout parfois des éléments déformés, il y a une généralité de communication qui doit être présente et que tout le monde doit pouvoir écouter. Donc cette censure est malsaine et je comprends bien la réaction de gouvernement du Burkina Faso face à des déformations colportées par RFI. C'est à la justice, enfin il faut saisir la justice. En France, ces télévisions publiques, RFI, France Culture, France 2, etc., télévision, sont sous l'autorité du ministère chargé de la communication, des informations, et donc il faut que les pays concernés portent plainte pour que ces choses-là soient traitées devant la justice. Même si c'est mineur, les conséquences peuvent être importantes et il faut faire agir la justice.
Monsieur Luc Michel, donc M. Bernard Cornu donne raison au gouvernement burkinabé de suspendre immédiatement donc la radio RFI. Que pensez-vous?
Il a tout à fait raison. Écoutez, en Afrique, on appelle RFI Radio France Intoxication. C'est un média d'État français, financé par l'État français, et Macron l'année passée, ainsi que la ministre de la Défense, Florence Parly, a confié la guerre informationnelle aux médias d'État français, RFI, France 24, LCI et compagnie. Mais en fait, c'est un boomerang de ce qui s'est fait en Ukraine. À partir du moment où les Européens ont interdit Spoutnik et Russia Today, ils ont ouvert la boîte de Pandore. La boîte de Pandore, elle s'est ouverte au Mali, elle s'est ouverte maintenant au Burkina Faso. Ce qu'il faut retenir, c'est le grand hebdomadaire algérien, l'Express des Z, qui disait hier que la France-Afrique était en train de s'effondrer à grande vitesse. Il y a une nouvelle génération de jeunes officiers africains qui n'est plus dans l'influence française. Et les pays africains voient la façon dont on traite la Russie, la Chine ou l'Iran, et ils sont déterminés à combattre aux côtés de leurs camarades du reste du monde contre l'impérialisme occidental. C'est la fin de la France en Afrique, et elle sera bientôt suivie de la fin des États-Unis.
Monsieur Luc Michel, l'axe US-L'OTAN voit d'un très mauvais œil le recrutement des milliers de jeunes burkinafais ou d'Africains, justement, pour combattre le terrorisme, alors que c'est l'axe US-OTAN qui, prétextant d'être présent dans ces régions pour lutter contre le terrorisme, donc a fait paniquer, justement, cet axe.
Écoutez, la soi-disant guerre occidentale au terrorisme, c'est une farce ou un théâtre. En 8 ans, les Français ont eu 53 morts dans le cadre de l'opération Barkhane. Au Vietnam, les Américains, entre 1960 et 1968, ont eu plus de 100 000 morts là-bas. C'était une vraie guerre. Mais évidemment, les Occidentaux se servent du prétexte du terrorisme pour faire leur ingérence et ils sont opposés au soulèvement de milices populaires sur le modèle de l'axe de la résistance au Yémen, en Syrie ou encore au Hezbollah au Liban. La constitution de milices populaires en Afrique sur le modèle de l'axe de la résistance, c'est la condamnation des opérations militaires occidentales. Aujourd'hui, l'Occident est une imposture, mais les peuples du monde voient cette imposture, le rideau de cette imposture se déchirer. Comme on dit dans le langage vulgaire français, aujourd'hui, le roi occidental est nu.
Bernard Cornu, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
Oui, je suis d'accord, mais je voudrais aussi, avec Luc Michel, mais je voudrais revenir un peu sur cette notion de terrorisme. C'est vrai qu'il y a des actes violents, répréhensibles, contre des civils, et ce sont des actes de terrorisme, mais les causes du terrorisme sont assez mal connues, mal définies. Et en fait, moi-même, ayant une expérience internationale longue, je sais que cette région a été très perturbée dans les années 80, au siècle dernier, parce que les riches de la péninsule arabique sont venus chasser la gazelle et aussi chercher des filles, comme ils le font dans d'autres pays, au Soudan, etc., parce qu'ils sont très riches et qu'ils sont capables de payer des bakchiches à des niveaux politiques très élevés et à des commerciaux pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc cette corruption a été amenée dans les années 80. Et il y a un autre phénomène aussi, c'est la contrebande des carburants. Il y a une très grande différence sur les prix du gasoil, de l'essence, entre les pays producteurs comme l'Algérie, le Soudan, la Libye, et dans le temps, enfin quelques années, le Nigeria, et les pays du Sahel qui n'ont pas de production et qui ont des besoins importants de carburant pour se déplacer avec généralement des camions ou des tout-terrains. Donc en fait, ces réseaux de contrebande entretiennent ou profitent de la corruption établie ou l'entretiennent, suit la contrebande de drogue, de main-d'œuvre, de personnel. Et tous ces réseaux de corruption vont très loin, souvent dans les États. Et c'est ceci qui produit le terrorisme, parce qu'il y a des réseaux concurrents et qui amènent des armes et qui se battent entre eux à certains moments pour garder leur citadelle, leur réseau. Et en fait, la coopération doit se faire entre les pays africains et avec l'Occident, l'Europe, s'il veut bien, pour arriver à faire converger les taxes sur les carburants dans tous ces pays pour limiter la contrebande. Le phénomène est le même depuis des décennies, presque depuis un siècle, dans la région limitrophe entre la Turquie, qui a toujours eu des carburants chers, entre l'Iran, producteur, qui a des carburants pas chers, et l'Irak, qui avait aussi des carburants pas chers. Et vous pouvez très facilement voir sur Internet la contrebande dans les montagnes, avec des jerrycans, des ânes et des hommes qui passent même à travers la neige avec des barils d'essence ou de gasoil. Et ceci est très ancien. Et je crois, j'ai déjà dit sur votre antenne, que celui qui a fondé le Mossad dans les années, début des années 50, avait été envoyé déjà par Ben Gurion et Jabotinsky qui à Bagdad et ensuite dans le Kurdistan, dans les nord de l'Irak. Et lui-même, dans ses mémoires, il a écrit qu'il a appris à bien résoudre, à connaître tous les réseaux des chefs locaux, les réseaux de contrebande, et que celui-là a servi dans sa carrière. Chaque fois qu'il y a de la contrebande, il y a des manipulations, il y a la corruption. Et il faut, pour lutter contre le terroriste, la première chose à faire, c'est de lutter contre la contrebande et donc faire des coopérations sur les taxations des carburants.
Luc Michel.
Les chefs du terrorisme en Afrique, ce sont des anciens contrebandiers. Je suis d'accord avec M. Cornu pour ce qui concerne l'Afrique. Quelqu'un comme, par exemple, le chef de Al-Mor Habitoud, on l'appelait Al-Mor Roman il y a 20 ans. Il est spécialisé dans le trafic de cigarettes. Mais le terrorisme, en fait, c'est une création de l'Occident. Et les terroristes ne sont pas les ennemis des armées occidentales, mais leurs complices. Le terrorisme a été employé contre l'Union soviétique en Afghanistan, contre le père de Bachar el-Assad, Hafez el-Assad en Syrie, contre Muammar Kadhafi. En 1998, il y a eu un coup d'État terroriste en Libye qui a été mené par le chef d'Al-Qaïda en Libye, qui s'appelait Abdelhakim Belhadj. Eh bien, il avait pour complice dans ce coup d'État le MI6 britannique et la CIA. Et lorsque les Occidentaux se sont emparés de Tripoli en juillet 2011, ils ont fait Abdelhakim Belhadj, ils en ont fait le gouverneur militaire de Tripoli. Il ne faut donc pas confondre les contrebandiers qui deviennent des voyous et qui se livrent à des actes de terrorisme avec le grand terrorisme international, Al-Qaïda, Daesh et compagnie. Cela, c'est une pure création occidentale.
Monsieur Cornu, que pensez-vous de cette création donc occidentale du terrorisme de la région qui a sans doute beaucoup profité à ces pays-là? Pas de l'Afrique,
tout
de l'Occident.
Tout à fait. Monsieur Luc Michel a bien raison de rappeler que le terrorisme a été commencé, enfin il y a eu des étapes avant, mais a été commencé au Moyen-Orient à travers l'Afghanistan par des financements de Monsieur Brzezinski, des décisions de Brzezinski et du président américain pour, en collusion avec l'Arabie Saoudite, et de financer des hommes armés qui ont perturbé la situation en Afghanistan dans les années de l'automne 79, ce qui a amené à l'entrée de l'armée rouge en Afghanistan. Mais la provocation a été faite par les États-Unis. Ça a été évoqué aussi au Liban. Et moi-même, ayant vécu au Liban juste avant le début des événements de la guerre civile de 75, j'avais déjà diagnostiqué que, en fait, cette guerre civile a été déclenchée par des trafiquants de cigarettes, enfin, qui étaient soutenus politiquement et qui soutenaient certains partis de droite du nord du Liban, qui étaient eux-mêmes financés par ce trafic de cigarettes organisé par l'État israélien et par les services américains. Donc, chaque fois, il y a
des
problèmes de contrebande.
Monsieur Bernard Cornu, excusez-moi de vous interrompre, mais vous ne pensez pas que l'Afrique s'est éveillée? Et bien sûr, ce soulèvement général à travers toute l'Afrique va empêcher justement l'axe US-L'OTAN ou bien l'Occident de continuer à affaiblir militairement, économiquement, par le biais du trafic de drogue ou bien du terrorisme.
Là où les dirigeants sont honnêtes, expérimentés et qui ont une certaine légitimité démocratique, je pense qu'effectivement, ils sont capables, par leurs conseillers, de comprendre la situation et de réagir par des politiques de coopération entre eux, entre les pays africains, qui soient saines et qui, petit à petit, arrivent à combattre ces réseaux et surtout arrivent à limiter ou combattre l'influence, disons, malsaine de certains pays et de leurs services le service secret ou de leurs armées qui se croient souvent un peu tout permis. Donc je pense qu'effectivement, ce réveil de dirigeants africains, là où ils sont compétent, honnête et avec une forte légitimité démocratique, je pense qu'il y aura des solutions à trouver et il faut que même l'Occident les aide à aller dans ce sens-là.
Monsieur Luc Michel, le Burkina Faso a suivi l'exemple du Mali. Est-ce que d'autres pays vont suivre cet exemple?
Il y a d'autres pays qui vont suivre. Il y a déjà la Centrafrique maintenant. Il y a sans doute le Togo, bien entendu. Mais il faut retenir quelque chose. C'est qu'en tant que les dirigeants occidentaux existeront, il y aura toujours des problèmes. Par exemple, la Guinée-Bissau, c'était un narco-État. Le chef d'adjoint de la marine de Guinée-Bissau, l'amiral Nachao d'ailleurs, a fini par être enlevé par les États-Unis, il est en prison à vie. L'année dernière est mort le premier ministre de Côte d'Ivoire. Bien entendu, celui-ci était accusé par la DEA d'être un narco-baron qui contrôlait tout le trafic de drogue dans le golfe de Guinée. D'autres États vivent des narcotrafics comme le Maroc pour le trafic de hachis. Tant que ces États pro-occidentaux existeront, évidemment, il y aura une base pour le terrorisme. Il faut souhaiter que le noyau qui est constitué par le Mali et qui est en train de s'étendre maintenant au Burkina Faso et on l'espère plus tard à d'autres États, eh bien que ce noyau, évidemment, s'étendra à toute l'Afrique.
Monsieur Bernard Cornu, est-ce que vous croyez l'avenir de l'Afrique avec donc moins de présence occidentale et plus d'enrichissement, donc de profiter de leur richesse à travers toute l'Afrique?
Oui, il y a un processus de développement qui est nécessaire. Il faut que les cadres qualifiés de ces pays-là puissent être libres d'investir dans les ressources minières, dans les ressources, dans le développement des transports. C'est un long processus, mais qui se peut réussir que s'il y a un arrêt de la corruption, s'il y a un développement de la démocratie, pour que des gens compétents, respectés, honnêtes, puissent organiser le développement de leur pays. Et donc je pense que c'est possible, puisque l'Afrique, comme on l'a dit, a beaucoup de ressources en eau, en ressources minières, en ressources humaines. Et donc voilà, il faut que les interventions de cette époque coloniale, qui doit être révolue, de corruption, de manœuvres souterraines pour contrôler des zones minières, comme l'a fait le Congo, comme l'a fait la France, comme l'a fait l'Empire britannique. Il faut que ces pratiques-là cessent et que l'Afrique puisse se prendre en main au niveau financier, au niveau du développement, au niveau des formations. Mais effectivement, c'est un long processus qui nécessite à la fois la compétence, une évolution démocratique et une honnêteté. C'est-à-dire aussi, ce qui est très important au niveau pratique, c'est une grande coopération sur les politiques fiscales de taxation, notamment des carburants.
Oui, tout à fait. Monsieur Luc Michel, est-ce que vous croyez à l'avenir de l'Afrique sans la présence occidentale?
Moi, je crois à l'avenir de l'Afrique, d'autant plus qu'il faut savoir que l'impérialisme occidental, le colonialisme, il s'est développé sur des trafics. L'arrivée des Britanniques en Chine, elle s'est faite dans les guerres de l'opium. Et l'arrivée des Français en Indochine, elle a suscité la création d'une régie de l'opium de l'État français. Donc les grands trafics qui existent actuellement, ils sont consubstantiels de l'Occident. Consubstantiel, c'est un terme de la théologie catholique. Eh bien, la corruption, elle est consubstantielle de l'Occident américain. Partout où l'Occident existe, il amène la corruption. Le premier moyen de relever tous les pays du monde, à commencer par l'Afrique, c'est d'empêcher cette corruption occidentale.
Oui, tout à fait. Monsieur Bernard Cornu, vous aurez le dernier mot dans ce débat. L'avenir de l'Afrique, est-ce que ce sera sans les Occidentaux ou bien encore ils vont poursuivre à être présents sous prétexte de lutter contre le terrorisme?
Oui, il y a des Occidentaux qui sont présents, qui font des co-entreprises avec des Africains. Donc il y a quand même des Occidentaux qui sont capables de participer à ce développement de l'Afrique. Elle ne se fera pas toute seule, mais il faut qu'il y ait une vision, une indépendance, une honnêteté, un développement démocratique. Juste pour conclure, je voulais rappeler quelque chose sur qui concerne l'Iran, c'est la concession de Talbot dans les années, je crois, 1880. C'était des Anglais qui voulaient avoir le monopole du tabac. Les autorités de l'Iran de l'époque, traditionnelles, ont senti le danger et il y a eu une fatwa pour dire à l'époque aux gens arrêtez de fumer parce que du coup le marché du tabac s'écroulait et les Britanniques qui voulaient cette concession avec des vues à très long terme pour contrôler l'Iran pour d'autres zones, pour d'autres objectifs, c'était la route des Indes, c'était le pétrole au sud, et donc une fatwa a permis de faire baisser le marché du tabac et de faire que Talbot, les Britanniques, renoncent à cette demande de concession.
Absolument. Eh bien, Bernard Cornu, depuis Vaucluse, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Un grand merci également à M. Luc Michel, géopoliticien, qui a participé à cette émission depuis Bruxelles. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui a resté inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. Chers auditeurs, bonjour. Dans cette émission, nous nous familiarisons avec une autre figure de proue scientifique iranien qui a rendu de précieux services à l'humanité. Mohammad ibn Yahya ibn Ismail ibn Abbas, connu sous le nom d'Abulwafa Buzjani, un mathématicien et astronome iranien exceptionnel, né au 4e siècle de l'Égypte à Buzjan, aujourd'hui Torbat-e-Jam, à la frontière du Khorasan et de l'Afghanistan. Là-bas, il a appris les bases des mathématiques du temps auprès de son oncle et s'est rendu par la suite à Nishabur. Plus tard, à l'âge de 20 ans, il se rend à Bagdad et poursuit ses études avec différents professeurs. Il y a vécu jusqu'à la fin de sa vie. En Irak, il est devenu le dernier représentant éminent de l'école de mathématiques et d'astronomie. Il a notamment écrit des ouvrages importants et a commencé à étudier les astres avec d'autres compères à l'observatoire de Bagdad. Après un certain temps, il est devenu l'un des scientifiques les plus célèbres de son époque et a entretenu de correspondances avec les scientifiques de son temps. À titre d'exemple, lorsque Kaburehan Biruni se trouvait à Khorasm, lui et Buzjani ont décidé de partager les résultats des deux observations de l'éclipse de lune effectuées en même temps, car ils les avaient faites à deux endroits différents. Ibn Nadim, qui est un contemporain d'Abulwafa Biruni, fait allusion dans son Al-Fahrest au nom de Buzjani comme scientifique avec qui il a correspondu. L'une des actions précieuses d'Abulwafa Buzjani consistait à compiler les méthodes de calcul que les commerçants, les employés des services financiers et les géomètres utilisaient de manière régulière dans leur travail quotidien en Orient musulman. De plus, il a également modifié les méthodes de calcul courantes, mettant en cause également certaines méthodes incorrectes. Par exemple, après avoir entendu dire que les géomètres trouvent l'air de n'importe quel quadrilatère, en multipliant la moitié de la somme des côtés opposés ensemble, il affirme qu'il s'agit d'une erreur claire et certaine. Dans l'offre Kitab el-Malhessab, Abulwafa donne des résultats de calcul à l'usage du quotidien pour l'épicier, par exemple. Dans ce dernier, il n'utilise pas de chiffres, mais seulement des consignes expliquant comment compter avec ses doigts. En effet, dans l'immense empire musulman d'alors, il y avait plusieurs monnaies officielles et donc les bons marchands étaient ceux qui calculaient le mieux. D'après le livre de Buzjani, il apparaît que le système local de numérotation décimale indienne utilisant des chiffres, n'a pas été utilisée depuis longtemps parmi les habitants et les commerçants de l'Est. Compte tenu de l'habitude et de la coutume des lecteurs pour lesquels le livre a été écrit, il a complètement évité d'utiliser des chiffres, a exprimé tous les chiffres et les calculs, parfois très compliqués, avec seulement des mots. L'un des intérêts d'Abolfafo était aussi l'optique et il publie pour cette raison un livre sur les miroirs ardents, miroirs dont tous les rayons réfléchis convergent en un même point et qui permettent ainsi d'obtenir en ce point une chaleur suffisante pour enflammer un objet. L'un des livres scientifiques de Busoni est « Les constructions géométriques nécessaires aux artisans » qui a été écrit après l'an 379 de l'Égypte. De nombreuses méthodes de fabrication de formes bidimensionnelles et tridimensionnelles présentées par Busoni sont adaptées des travaux d'Euclide, Archimède, Héron d'Alexandrie, Théodose et Pappus, mais certains exemples sont innovants. L'une des autres œuvres les plus importantes de Busoni en astronomie s'appelle Al-Kitab al-Kamel, qui est une révision d'Almageste de Ptolémée. Ce livre comporte trois parties qui traitent de la trigonométrie sphérique et dans la troisième partie des théories astronomiques. Al-Kitab al-Kamel de Busoni contient des données d'observation très précises qui ont été utilisées dans les travaux astronomiques pendant des siècles. Par exemple, l'une des réalisations de Busoni dans ce livre était qu'il considérait pour la première fois le rayon du cercle trigonométrie égale 1 à 1, ce qui rend ces mesures très faciles, car avant Busoni, les astronomes fixaient toujours ce rayon à 60. En général, on peut dire que Busoni a fait des progrès très importants en astronomie en écrivant ce livre. Il est possible que le livre Al-Kitab al-Kamel, dont il n'en reste qu'une partie, soit son livre intitulé Zijal Vazé, une partie de celui-ci qui est basée sur ses propres observations et celles de ses collègues. Avant Busoni, en trigonométrie sphérique, la seule formule pour résoudre un triangle était le théorème de Menelaus sur un quadrilatère complet. L'application de ce théorème dans différentes situations était très lourde. Cependant, Busoni a procédé à enrichir les outils de trigonométrie sphérique et a ainsi facilité la résolution des questions de la géométrie de triangle. Dans ce contexte, il a utilisé des tangentes pour résoudre des triangles, rectangles et sphériques. On lui doit la notion de cercle trigonométrique, celle de sécante et cosécante. On lui attribue aussi la formule des sinus en trigonométrie et sphérique. Il a résolu les grands problèmes de la géométrie classique et a recherché les principes des dessins géométriques auxquels personne n'a réussi à donner une autre solution jusqu'à aujourd'hui. En bon observateur, Abolfafo a beaucoup étudié les mouvements de la Lune, a traduit et commenté en arabe de nombreux travaux récupérés de la grecque antique. Il est amusant de savoir le fait que ses livres sont les seuls au Moyen-Âge à utiliser des nombres négatifs. En Occident, de nombreuses recherches ont été menées sur Busoni. Par exemple, on peut citer les recherches controversées de l'astronome français Jean-Jacques Emmanuel Sédio en 1836. Dans sa lettre au Bureau des longitudes, Sédio proclamait bien haut sa thèse. Les Arabes ont été originaux, ils ont découvert 600 ans avant Tycho Brahe une inégalité dans le mouvement de la Lune que les astronomes modernes appellent variation. Il a directement fait allusion au nom d'Abolfafo Busoni. En raison des nombreux services de Busoni et de ses travaux uniques en astronomie, les scientifiques européens on nommait le 10e siècle après Jésus-Christ l'ère d'Abolvafor et on nommait l'un des cratères de la Lune après lui. En 1999, une conférence internationale a eu lieu dans la ville natale d'Abolvafor, Torbatejom, afin de mieux le faire connaître au monde ainsi que ses services et ses œuvres. En 2015, le moteur de recherche Google a honoré les meilleurs 75e anniversaire de Boudjani en remplaçant son logo par une nouvelle image et des symboles géométriques et mathématiques.